nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, s'est rendu récemment en Égypte le 19 et le 20 juin 2010 pour se rendre à l'Université française du Caire qui avait reçu en 2008 le prix culturel de la Fondation Louis D. Retour sur un prix, son utilisation, focus sur le maintien des liens et des échanges dans une relation de mécénat, à travers l'exemple d'un des plus grands prix de l'Institut de France distribué chaque année, le prix Louis D pour la culture. Gabriel de Breuil, bonjour.
Bonjour.
Revenons, si vous le voulez bien, en parallèle sur deux points à la fois, l'importance du prix Louis D pour la culture et la particularité de l'Université française du Caire. En quoi consiste en fait le prix Louis D pour la culture? Et puis, qu'enseigne-t-on dans cette Université française du Caire?
Le prix Louis D est un prix considérable. Son montant est comparable à celui du prix Nobel. Il n'a pas encore la même notoriété, mais il commence à l'avoir. Dans le domaine scientifique, toutes les grandes universités et académies des sciences du monde connaissent le prix Louis D. C'est une distinction qui est tout à fait recherchée. Il est attribué tous les deux ans dans le domaine culturel par un jury particulier. Il y a le conseil d'administration de la fondation que je préside. Les fondateurs sont présents, vivent toujours. Ce n'est pas une fondation héritage. Mais ils sont si discrets qu'ils ne souhaitent pas que leur nom apparaisse. Et ce jury est présidé par Mme Hélène Carrère-Dancausse. Et donc, il propose au conseil d'administration le lauréat du Grand Prix culturel. Ce Grand Prix est décerné non pas en récompense à un auteur, un créateur, non. C'est un prix qui est pour une organisation privée, éventuellement universitaire, de recherche, enfin une organisation collective, et non pas en récompense d'eux, mais pour contribuer à un projet. C'est un pouvoir de faire, n'est-ce pas? C'est un prix d'encouragement à un projet particulièrement qui mérite d'être encouragé. Et donc, cela a été en 2008, l'Université française du Caire, qui est une très belle entreprise, qui a été fondée, disons, en 2002, par les deux présidents égyptiens Moubarak et Jacques Chirac, président de la République française, qui ont signé la convention de fondation à l'initiative d'un certain nombre de grands industriels, grands mécènes et grands intellectuels égyptiens, avec l'appui d'entrepreneurs français et qui ont souhaité créer une université française au Caire, en Égypte. C'est l'Université française d'Égypte. Disons que pour se situer à côté des universités françaises étrangères, puisqu'il y a une université française, université allemande du Caire, une université anglaise, une université américaine. Et donc, ce n'est pas une université complète, donc il y a un côté assez économique ou de gestion. Dans la vocation de cette université, elle a trois départements, en effet. L'ingénierie, une ingénierie plutôt appliquée, pas la haute ingénierie, mais tout de même avec des laboratoires et avec des laboratoires de recherche. Deuxièmement, les nouvelles techniques de la communication, la numérisation, mais aussi l'informatique d'information, de gestion. Et là, il y a aussi des laboratoires et une activité de recherche. Et enfin, les langues appliquées, qui n'est pas du tout l'enseignement universitaire d'une langue ou de plusieurs langues. Non, ce sont les problèmes dans un monde de plurilinguisme, les problèmes des langues appliquées, c'est-à-dire de traduction, de compréhension, de traduction simultanée, de correspondance entre des langues. Il y a un mouvement de plus en plus grand qui cherchait l'intercompréhension de langues qui ont la même origine, n'est-ce pas, et qui peuvent se passer de traduction. Voilà, là aussi, laboratoire et laboratoire aussi de recherche, avec y compris l'étude de la parole, de la prononciation, de l'audition, etc. Voilà, avec cet enseignement de base, qui se diversifie avec des masters ou des diplômes plus spécialisés comme par exemple un master de gestion du patrimoine, dans la filiation d'ingénierie, si on veut, et un master d'ingénieur architecte, donc d'architecture, dans la même filière.
Alors, pour quelles raisons l'Université française du Caire avait-elle quand même spécifiquement remporté ce prix il y a 2 ans, au moment où cette institution en était à ses tout jeunes débuts ?
Oui, en effet, vous avez raison de souligner que le prix a été attribué juste au moment où il fallait.
Voilà.
La question s'était déjà posée 2 ans auparavant. Et le jury avait été saisi de ce projet. Et le jury avait estimé que l'université n'était pas encore affirmée en état de fonctionnement et que c'était trop tôt pour décerner un prix de cette importance.
Et qui est de l'ordre quand même de 750 000 euros.
Il faut être déjà une organisation bien constituée pour recevoir ce prix et pour l'utiliser à bon escient, n'est-ce pas ? Et donc, 2 ans plus tard, le bâtiment était terminé, il avait été donné à l'Université française d'Égypte. Il convient parfaitement. C'est dans une partie excentrée du Caire qui est une sorte de ville nouvelle. Mais la ville nouvelle qui comprend justement des universités anglaises, américaines et allemandes. Donc une sorte de cité universitaire, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça va être une grande ville nouvelle, avec des possibilités de terrain, de campus, etc. Les locaux étaient terminés, l'université était installée, mais elle hésitait encore sur sa vocation, car elle disposait de grandes salles de réunion, tout à fait bien, mais elle n'était pas équipée, elle n'avait pas de laboratoire. Et c'est à ce moment-là que le prix Louis D est arrivé comme un conte de fées, en disant à cette université, qui était très demanderesse et très motivée pour cela, « Nous vous offrons la somme qui va vous permettre d'équiper les laboratoires. »
Donc c'était un prix là, spécifique pour la faculté d'ingénierie. Pour les trois.
Les trois, d'accord. Car il y a un laboratoire de technique de la communication et d'informatique, très sophistiqué d'ailleurs, et il y a un laboratoire beaucoup plus modeste, évidemment, pour les langues appliquées, c'est-à-dire un laboratoire d'écoute et de sonorisation, enfin de traduction automatique, de traduction simultanée, etc. Mais c'est surtout, en effet, d'ingénierie. Mais à mon avis, les laboratoires que nous avons visités de technique de la communication sont au moins aussi nombreux et développés.
À quoi l'argent du prix Louis D a-t-il été donc concrètement employé ?
Très concrètement, il a été employé pour équiper de grands et beaux laboratoires, grandes salles très claires, qui peuvent permettre d'accueillir chacun peut-être une trentaine, une quarantaine d'étudiants qui sont en travaux appliqués, qui sont sous la direction de maîtres de travaux ou de professeurs, et pour leur permettre d'avoir les équipements pour développer leurs recherches et leurs études, et pour l'enseignement même. Ce projet d'équipement a été conçu par le conseil de l'université, très bien, de manière... Il était décrit dans le projet, mais simplement décrit, et il a été rigoureusement observé et appliqué dans un délai record, parce que l'université était absolument prête à démarrer dès qu'elle aurait l'information que le prix était attribué. Et donc, le prix a été attribué, en fait, au mois d'avril, décerné au mois de juin. Mais dès le mois d'avril, l'université savait qu'elle était lauréate. Elle a commencé tout de suite à faire les appels à la concurrence et à consulter les entreprises. Ça a été des entreprises françaises, allemandes, danoises, suédoises même qui sont intervenues. Et tout ça s'est déroulé pendant l'été, si bien qu'à la rentrée universitaire en septembre, comme les laboratoires étaient équipés. Et cette université qui essuyait les plâtres s'est transformée en un espace de temps très court, en université équipée de laboratoires tout neufs.
Le matériel, les logiciels, tout le nécessaire pour le bon fonctionnement de ces laboratoires. Revenons peut-être un petit peu sur l'originalité des fondateurs de cette université, puisque ce sont des ingénieurs, vous avez parlé des entrepreneurs, ce sont aussi des ingénieurs égyptiens qui ont été formés pour la plupart dans des établissements francophones et qui étaient convaincus de créer en Égypte un établissement, disons une université moderne, qui serait axée à la fois sur le savoir et le savoir-faire français. Même si les relations sont anciennes entre la France et l'Égypte, il y avait là une volonté particulière des fondateurs. Est-ce que ça a joué ou... Que représente pour vous cet ancrage moderniste de ces entrepreneurs égyptiens francophiles ?
Oui, c'est la rencontre entre une attente et un désir on a appelé cela un désir de France ou un désir de la culture, de la langue française, de la part, partie très importante de la société égyptienne et des partenaires français qui sont plusieurs. Et je vais montrer comment les partenaires se sont mis à collaborer. C'est une université égyptienne. Elle a un président égyptien, président du conseil de surveillance, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères égyptien, personnalité, et un président de l'université, qui est un professeur d'université égyptien de gestion, très francophone, très francophile et très compétent, et qui a une autorité dans le milieu universitaire égyptien. Il y a un vice-président de l'université qui est français et qui est lui aussi un professeur d'université en économie politique et en gestion. Ils forment une très bonne équipe et ils ont conçu le projet, tous les deux, très bien formulé, d'une université se nourrissant de la culture et de la langue française. Tous les enseignements ne sont pas en français, dans la langue française, mais la plus grande partie. Et il y a peut-être quelques enseignements en langue arabe et quelques enseignements en anglais, mais l'essentiel de la formation est en langue française. Deuxièmement, c'est une université d'excellence, très rassemblée autour de ses objectifs, avec des demandes d'inscription qui sont nombreuses, parce que la réputation de l'université existe, les fondateurs égyptiens l'ont répandue, et donc il y a de nombreux étudiants égyptiens qui souhaitent être étudiants de l'Université française d'Égypte. Un projet d'excellence et en même temps utilitaire, c'est-à-dire efficace. Dans le jargon peut-être qui est utilisé, j'ai vu qu'on voulait que ce soit un enseignement professionnalisant. On voit bien ce que cela veut dire. Et d'ailleurs, les trois disciplines, n'est-ce pas, sont elles-mêmes, toutes les trois, orientées vers une activité économique. Ce n'est pas la spéculation, c'est une activité professionnelle. Et cette université a été bâtie grâce au Conseil de l'université à partir d'un partenariat avec les universités françaises qui est extrêmement efficace et qui donne à cette université un privilège, un véritable privilège, que dans le jargon encore de cette université, on appelle la double diplomation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les diplômes décernés par l'Université française d'Égypte sont reconnus en Égypte et en France comme décernés par l'université qui est partenaire du cursus suivi. Alors, il y a plusieurs universités françaises qui sont partenaires, deux à Paris, une à Grenoble, une à Toulouse et une autre à Strasbourg. Il y en a une à l'Alsace.
Donc, moi, j'ai Nantes, Toulouse, Paris 6, en Corse, et à Mulhouse,
Corse, pardon. Et Mulhouse, voilà.
Et Paris 3.
C'est remarquable. Chacune de ces universités est passée une convention, suit les études, accueille les étudiants égyptiens pendant un semestre en formation dans leur université et répond de la qualité des études et des examens. Des tâches des professeurs, notamment pour passer les examens, mais aussi pour faire des travaux, des enseignements courts. Donc il y a un partenariat très étroit auquel les étudiants égyptiens sont très attachés, évidemment, et ça donne à l'enseignement de l'Université française d'Égypte toute sa valeur.
Et ça peut être aussi une importance supplémentaire depuis la mise en place du LMD en Europe, c'est-à-dire de cette standardisation des diplômes européens. C'est une porte sur l'Europe.
C'est une porte très plus vaste pour les universités françaises. Ajoutons que c'est la seule université étrangère en Égypte qui accorde ce privilège. L'université allemande ni l'université anglaise n'accordent le même. Et donc c'est très, très recherché.
C'est l'originalité et vraiment l'intérêt d'y faire de ces études, ce cursus qui sont assez longs, 5 années. Une originalité aussi par rapport à la grande université américaine du Caire qui existe depuis 1919, qui est vraiment une ancienne institution. Et donc on voit là une nouvelle façon d'enseigner et de travailler à la transmission des savoirs entre les différentes cultures. Vous avez évoqué les langues, vous avez dit que l'essentiel se faisait en français, mais il y a vraiment aussi une volonté des organisateurs de maintenir ces trois langues, l'anglais, l'arabe et le français, et de placer, disons, le français parmi ces trois langues. Donc cette diversité des langues sert la francophonie davantage peut-être que le simple fait de n'étudier et de n'enseigner qu'en français. C'est sûrement un atout considérable pour le dynamisme de cette université.
Bien entendu, il y a les deux, n'est-ce pas ? Et dans un équilibre que j'ai observé et qui me paraît tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit nullement d'exclure quelque langue que ce soit. Et la langue anglaise en Égypte, son développement, et en effet les autres universités enseignent en anglais. Mais il y a un désir de culture et de langue française. Je vous donne un petit exemple. L'université allemande d'Égypte, elle enseigne entièrement en anglais. Et ça fait la différence, n'est-ce pas ? Alors, donc, il y a un mariage entre les cultures par cette formation, par cet enseignement de caractère supérieur et qui marie très heureusement la langue française avec les autres langues en usage en Égypte.
Avez-vous rencontré lors de votre visite, quand vous étiez au Caire, là, à Chourouk exactement, là, sur les lieux de l'université, avez-vous rencontré donc des étudiants ? Est-ce que vous avez pu échanger ? Qu'est-ce qui vous a frappé lors de votre visite ?
Nous avons rencontré d'abord le corps enseignant, tous les membres du corps enseignant qui étaient là, et les membres du conseil de l'université, et puis les étudiants qui étaient là, bien entendu, et que nous avons rencontrés, salués. Alors, ils sont tous parfaitement francophones. Ils sont tous issus d'écoles où ils ont appris ou fait une grande partie de leur enseignement, en tout cas primaire et secondaire, en français. Donc, ils sont désireux de poursuivre dans cette voie. Et ce sont des jeunes gens très motivés, tout à fait à l'aise, pas du tout, disons, occidentalisés dans leur psychologie. Non, pas du tout. Ce sont des Égyptiens fiers d'appartenir à leur grand pays et en même temps tout à fait conscient que c'est un privilège de pouvoir poursuivre ses études dans la sphère de la langue et de la culture française. Il n'y a là nulle gêne, nulle difficulté. Au contraire, c'est un épanouissement.
Lors de votre déplacement en Égypte, en juin 2010, vous avez fait aussi d'autres rencontres, Gabriel Daubreuil. En particulier, vous êtes rendu à l'Institut dominicain des études orientales du Caire, qui avait également reçu le prix de la Fondation Blanc-Ménil. C'est un autre domaine, un autre prix. Quel était l'objet de cette récompense à cet institut qui œuvre vraiment, alors là, pour le dialogue des religions ?
Alors, c'est une autre visite, complètement différente, mais une autre fondation de l'institut qui est intervenue, la Fondation Blanc-Ménil, qui, pendant plusieurs années de suite, a attribué une subvention relativement modeste. Pas un prix. Là encore, c'est une subvention pour un projet déterminé qui était d'aider à la numérisation du catalogue de la librairie, de la bibliothèque de l'Institut dominicain des études orientales du Caire. Pourquoi ? Eh bien, depuis longtemps, les Dominicains ont au Caire un organisme d'études et une immense bibliothèque, 150 000 volumes, spécialisés, consacrés à la connaissance et à l'étude du Coran et de l'islam. Et il s'agissait d'achever le catalogue de cette bibliothèque, de le numériser et de l'enrichir. Parce que nous avons assisté à la démonstration de plusieurs des pères dominicains du Caire, qui sont des érudits, des grands savants, ils sont tous professeurs d'université, à l'université égyptienne, etc. Et alors ils ont conçu ce catalogue numérisé comme une voie d'entrée, d'accès aux richesses de cette bibliothèque, qui est unique en son genre, dans le monde entier, et qui permet d'avoir accès, recours à tous les textes concernant le Coran et la religion de l'islam. Toutes les éditions successives du Coran, tous les commentaires du Coran, les commentaires successifs les uns suivis des autres, les revues consacrées au Coran et à l'islam, et les sommaires des revues aussi, ce qui n'existe nulle part. Il y a de nombreuses revues scientifiques qui sont consacrées à l'étude de l'islam. Il y en a en Syrie, au Liban, en Tunisie, etc. Mais il y a quelques revues de conservées. Nulle part, toutes les revues spécialisées scientifiques ne sont réunies que là. Et nulle part, ces revues ne sont cataloguées. Et donc, les auteurs du catalogue du Caire ont entrepris de prendre les sommaires et de numériser les sommaires et d'analyser, si peu que ce soit, mais de trois lignes, le contenu de l'article. Ils le font aussi des commentaires et des publications scientifiques, des livres et des études. si bien qu'on s'aperçoit que cette base de données numérique est beaucoup plus qu'un catalogue, c'est en réalité une encyclopédie du Coran et de l'islam.
Et qui va servir à la recherche.
Et qui est unique au monde, qui est bien connue. Les universités, les autres universités islamiques ont recours constamment à cette
à ces ressources.
Bibliothèque, ces ressources. Et la numérisation va ouvrir cette richesse documentaire à tous ceux que ces recherches intéressent. Les visites sont évidemment nombreuses, sont des visites d'étudiants approfondis, n'est-ce pas, spécialisés, ou d'enseignants. Les visites viennent de tous les pays, que ce soit éventuellement des chercheurs américains. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche est conduite depuis l'origine dans une très stricte neutralité et dans une érudition totale à l'égard du Coran et de l'islam. D'où une atmosphère de confiance et même de sympathie entre les auteurs responsables de cette bibliothèque dominicaine du Caire et tous ceux qui s'intéressent à la connaissance et à l'étude du Coran et de l'islam. C'est une démarche tout à fait intéressante. La Fondation Blanc-Ménil avait bien raison de l'encourager. Disons, l'efficacité, le développement de cette démarche de la Fondation ne m'était pas apparu dans toute son ampleur jusqu'à présent. J'ai été très heureux d'en prendre connaissance et je continuerai à développer, disons, diffuser encore la connaissance de ce catalogue. Il est évidemment accessible librement, gratuitement, par l'Internet.
Et oui, grâce à la numérisation, voilà. Ça va être, c'est là l'intérêt. Qu'est-ce qui a attiré votre œil de bibliophile dans cette bibliothèque ?
C'est très curieux, c'est une bibliothèque spécialisée. Et ceux qui sont occupés de la bibliothèque ne sont pas des bibliophiles, d'abord. Alors, j'ai demandé s'il y avait la description de l'Égypte. Bon, il n'y a pas la description de l'Égypte. Mais pourquoi, comment, ça m'étonne. Non, non. Et alors, en traversant un vestibule de bibliothèque, j'avais vu que, mal encadré d'ailleurs, au mur, il y avait plusieurs planches gravées tirées de la description de l'Égypte. Alors, je me suis dit, ah, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et en réalité, j'ai fini par recevoir l'affirmation que oui, il y avait peut-être une description de l'Égypte, mais qui était, c'était pas leur question, ça ne les intéresse pas. Et on m'a tout de même montré la partie imprimée, texte de l'ouvrage de Vivant de Don et de la description de l'Égypte qui est de 1809, que j'ai pu voir, pas très bien conservé. D'ailleurs, les livres ne se conservent pas très bien au Caire, évidemment, c'est pas. Mais enfin, c'est là. Et alors, il n'y a pas d'intérêt de bibliophilie du tout. Il y a simplement un rassemblement scientifique colossal.
Mais il y a des exemplaires particuliers du Coran, par exemple ?
Avec des exemplaires particuliers du Coran, anciens, et tous les textes récents qui ont reproduit les exemplaires anciens et qui sont d'un maniement plus commode, évidemment. Et toutes les éditions successives du Coran, qui sont très nombreuses, constantes, et dans plusieurs endroits d'édition, d'impression. Donc tout ça est un milieu extrêmement riche, et ça explique l'ampleur de cette bibliothèque. Est-ce que je peux vous dire que ça n'est pas tout ? En cheminant, n'est-ce pas, au Caire, et en étant reçu extrêmement bien par l'ambassadeur à sa résidence, il a donné un dîner en l'honneur de notre visite, et à ce dîner, j'ai rencontré une professeure d'université, une dame professeure d'université, qui est présidente de, disons, l'action francophone au ministère de l'enseignement supérieur du Caire, et qui a été vice-présidente de la Fédération internationale des professeurs de français.
Et la FIPF.
Je lui ai dit, mais nous nous sommes rencontrés, madame. Mais oui, j'étais à Paris lorsque l'Institut de France, le même prix Louis D, le même, en 2004, je crois, a décerné à la Fédération internationale des professeurs de français son grand prix, ce qui a permis à cette fédération d'acquérir un siège au cœur du Paris historique, en face du Collège de France, ce dont bénéficient tous les professeurs de français de par le monde.
Mais ils sont des dizaines de milliers dans cette fédération.
Oui, qui viennent au siège qui est à Paris. Précédemment, le siège était au lycée de Sèvres. Alors, quand il y a une réunion, des comités techniques qui font intervenir à la fois des gens qui viennent du Japon et d'autres du Québec, ce n'était pas très commode, quand on passe un après-midi à Paris, de demander aux gens d'aller au lycée de Sèvres. Les voilà au cœur du Paris historique, très bien installés, jouissant pleinement de ce grand prix qui a, une fois de plus, eu un caractère très concret. Et la vice-présidente de la FIPF de l'époque m'a renouvelé la grande reconnaissance de la FIPF pour ce prix.
Alors merci Gabriel De Breuil d'avoir été l'invité aujourd'hui de Canal Academy pour revenir justement sur les liens que tissent les mécènes et les institutions qui le récompensent. Merci.
Merci à vous.